Bonjour Clémence Alzar.
Bonjour Lucas, bonjour à tous et à toutes.
C'est le quatrième épisode ce matin de votre sélection avec Caroline Pommès de sujets d'actualité de l'été. Ce matin, vous nous parlez d'Airbnb, cette plateforme collaborative de location dont on a beaucoup parlé en effet au début de cet été. Puisqu'à Paris, les contrôles ont été renforcés, les amendes décuplées. 31 propriétaires ont été condamnés à 615 000 euros d'amende pour le seul premier trimestre 2017.
Airbnb n'est pas seul sur le marché. Près de 300 plateformes de ce type ont vu le jour ces 10 dernières années. Mais il est l'acteur majeur du secteur avec près de 350 000 hébergements proposés en France, dont 65 000 pour la seule capitale parisienne. Les quartiers les plus touchés sont sans surprise ceux du Marais, du quartier latin, de Montmartre ou encore bien sûr de la Tour Eiffel. Mais en réalité, aucun quartier parisien n'est vraiment épargné. D'ailleurs, nous prenons tout de suite la direction du 10e arrondissement de Paris, non loin de Strasbourg-Saint-Denis. Nous sommes chez Pénélope. Elle a accédé à la propriété il y a 11 ans grâce à Airbnb. Elle en a fait, je cite, un business plan. Oui, il y a un an. Elle a acheté en contractant un prêt. Elle a cessé de travailler. Elle se rembourse à coût de 50 euros la nuit en le louant plus de 6 mois par an pour voyager et suivre des formations diverses et variées.
Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Si t'étais le locataire, je t'aurais dit bienvenue chez toi.
J'essaye vraiment de parler de moi, quelle est mon expérience de parisienne, dans un petit book que je laisse toujours sur mon bar, qui est en français, en anglais, en espagnol. Et du coup, les personnes peuvent profiter de ça si elles souhaitent. Et en fait, c'est hyper sympa parce que du coup, les personnes, elles me posent plus de questions encore en me disant et tel type de restaurant, est-ce que vous connaissez? Et donc, je me renseigne. En fait, voilà, on discute et c'est ça qui est sympa aussi.
Et vous, quand vous partez à l'étranger, il vous arrive de louer des appartements sur Airbnb également ?
Oui, je le fais souvent. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je regrette un peu chez Airbnb, c'est que du coup, la monnaie d'échange, c'est l'euro et c'est un peu dommage. En fait, ça pourrait être aussi un prêt sous forme de crédit, pourquoi pas. On parle de Bitcoin beaucoup en ce moment. Moi, ce que j'avais pensé, c'est de dire, au lieu de dire la nuit, c'est 50 euros, la nuit, c'est 50 points ou 50 Airbnb points, enfin, j'en sais rien. Et un truc de, moi, j'ai loué mon appartement pour 50 points et du coup, j'ai 50 points crédités pour aller louer l'appartement de quelqu'un d'autre dans un autre lieu. Et quelque part, Airbnb, pour moi, c'est ça. Sauf que forcément, aujourd'hui, y a une monnaie d'échange qui est formalisée sur de l'euro.
Et il y a des propriétaires qui sont multipropriétaires où, effectivement, l'accueil est délégué à des concierges à la carte ou, en fait, plein de petites mains qui vont venir travailler pour les propriétaires. Et on est très éloigné du monde que vous décrivez, vous, pour le coup.
Oui, moi je déplore un peu ça, c'est sûr. J'ai des locataires qui me demanderaient ce genre de choses, qui me demanderaient d'avoir vraiment plus rien dans le frigo, plus rien dans mes armoires, plein de décorations aseptisées. Et là, moi je dis désolé, c'est pas l'expérience que je voulais vous faire vivre. Je pensais avoir été claire dans mon annonce. Maintenant, je pense qu'il y a une question de cible aussi. Si ces personnes veulent acheter 15 appartements pour les louer à plusieurs personnes, je trouve ça dommage qu'ils fassent sur Airbnb et parce que nous, à la base, c'est pas ça. Enfin, nous, voilà, je parle de communauté, mais parce que à la base, je pense que ça, du coup, ça fait perdre l'âme de ce site.
On a une note sur Airbnb.
Ouais.
Vous la connaissez, votre note?
Oui, j'ai une note de 4,7, je pense. Ouais. Sur 5.
C'est pas mal. Les 0,3, c'est les vêtements dans l'armoire, en fait.
C'est les vêtements, ouais. C'est les vêtements. Et après, il y a des choses qui sont pas du tout de mon ressort. C'est le quartier qui a pas plu. Je sais pas, peut-être le temps. Enfin, je sais pas. Je me dis que peut-être un jour, grâce à ça, j'acquérirais un bien plus grand et je pourrais faire venir des gens chez moi, être comme une maison d'hôte. Mais là, peut-être que ça prendrait... ça serait maison d'hôte, en fait. Ça serait plus Airbnb. Mais avoir plusieurs propriétés, non, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas du tout dans ma philosophie de... Non.
Pour Pénélope, Airbnb est avant tout une expérience. Elle pense ne pas s'être trop éloignée de l'idée originelle d'économie du partage, loin de l'ubérisation de l'immobilier. Il n'empêche qu'à compter d'octobre prochain, Pénélope, comme tous les autres propriétaires, souhaitant louer leurs biens sur ces plateformes, elle devra se doter, via un téléservice en ligne, d'un numéro d'enregistrement que les propriétaires ajouteront ensuite sur leur annonce à partir de décembre. Une sorte de permis de louer pour plus de transparence sur un marché jusqu'ici qui reste très opaque. Les collectivités pourront ainsi tenir un registre de ces biens, car au-delà de 120 jours de location de sa résidence principale à Paris, à moins d'une autorisation de la mairie, eh bien on est en infraction, et ils sont une quinzaine d'agents de la ville à se rendre désormais environ tous les deux mois sur le terrain pour des opérations coup de poing. Mélanie Gidel fait partie d'entre eux, de ces agents de la ville. Elle est adjointe en chef du bureau de la protection des locaux d'habitation à Paris. Elle nous explique un petit peu cette procédure.
L'essentiel du travail se fait en amont, avant d'aller sur le terrain. On prépare soigneusement un certain nombre d'éléments, on cherche des annonces, on cherche à les localiser le plus précisément possible, on contacte les syndics, etc. On fait un petit peu de repérage. Et puis le jour J, on se retrouve aux adresses qui auront été définies. Et puis on entre et on frappe à toutes les portes, de sorte qu'on s'assure que les locations touristiques sont correctement identifiées, localisées. On vérifie que nos informations sont valides. Et puis on échange aussi avec les personnes qu'on rencontre, donc les touristes s'ils sont là, les propriétaires, les voisins, les gardiens d'immeubles, les commerçants. Enfin, on essaye de rassembler des informations pour préciser un petit peu nos idées, parce que toutes les locations touristiques ne sont pas illégales, donc ça fait partie des vérifications qu'on fait sur le terrain.
Mais pour les multipropriétaires comme Marco, que j'ai eu au téléphone, qui possède lui une dizaine de meublés touristiques qu'il loue à des fins touristiques et dans des arrondissements plutôt cossus, pour lui il s'agit surtout de penser différemment la ville. Les grandes villes se muséifient et alors tout change, me dit-il. 20 000 touristes en Airbnb à Paris, c'est autant de baguettes, de tickets de métro, de billets de musée achetés à Paris. Bref, il suffirait pour lui de penser différemment l'usage de la grande ville. Mais pour Yann Brossat, adjoint communiste à la mairie de Paris et en charge du logement, 20 000, c'est surtout le nombre de logements que la ville de Paris aurait perdu du fait de l'ampleur prise par le phénomène ces 5 dernières années. On l'écoute.
Cet usage des logements contribue de manière incontestable à accélérer la gentrification à Paris. Quand on voit qu'un quart des logements du centre parisien ne servent plus aujourd'hui à loger des Parisiens et que cela engendre une baisse de la population, c'est un vrai problème. Et puis il faut quand même voir que entre les années 2000 et maintenant, la population parisienne avait à nouveau commencé à augmenter. Et ce qu'on constate depuis maintenant 2-3 ans, c'est qu'elle diminue dans les arrondissements du centre. Donc il y a clairement une corrélation entre le développement des meublés touristiques et des résidences secondaires dans les arrondissements du centre de Paris et la baisse de la population. Et j'ajoute un élément supplémentaire, c'est que Paris est une ville qui est déjà très pleine, très construite. C'est la ville la plus dense d'Europe. On a peu de parcelles disponibles. Donc la question du contrôle des logements qui ont déjà été bâtis et veiller à faire en sorte que ces logements servent à loger des Parisiens, c'est un enjeu fondamental pour nous.
Et sur cette question justement des logements existants, déjà bâtis, l'atelier parisien d'urbanisme publié il y a quelques jours une cartographie de 200 000, un peu plus de 200 000 même logements parisiens inoccupés ou occupés exceptionnellement, 25% dans les arrondissements du centre, 15% en fait sur l'ensemble de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là, un sillon à creuser de ce côté-là, de ce côté de ces 200 000 logements inoccupés ou occupés exceptionnellement?
Bien sûr que si. Parmi ces 200 000 logements qui sont aujourd'hui inoccupés, il y a une proportion importante de résidences secondaires qui sont occupées quelques semaines par an par leurs propriétaires qui le reste de l'année vivent à l'étranger ou sur un autre lieu de villégiature. Nous avons obtenu, la ville de Paris, la mise en place d'une surtaxe de 60% sur la taxe d'habitation, c'est tout récent. Je souhaite que cette taxe fasse effet et qu'en tout cas on dissuade les propriétaires de faire cet usage-là de leur logement. Après, il y a un autre sujet sur les logements vacants, qui est la question de la réquisition. Jusqu'à présent, l'État n'a jamais souhaité, enfin en tout cas pas depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, faire usage de la réquisition, mais la question pourrait se poser dans un contexte de crise du logement aussi aiguisé que celui que nous connaissons maintenant.
En attendant l'expropriation, la réquisition, l'autre changement que Yann Brossat appelle de ses voeux, c'est que plutôt que d'être contrainte par le législateur, les villes soient elles-mêmes en capacité de jouer sur la durée de la location, donc de 120 jours aujourd'hui. Lui, il la verrait bien limitée à 60 ou 90 jours, car pour lui, qui donc peut se permettre plus de 4 mois de vacances par an? De quoi donc inquiéter Pénélope et les autres?
Merci beaucoup Clémence Alzard.
Merci beaucoup à vous Lucas Manger et à tous, à toutes pour vos écoutes et retours sur les réseaux sociaux.
Et vive le reportage.